Et c'est le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les négociations suspendues hier soir doivent reprendre ce matin sur le CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Quentin Dickinson sera en direct de Bruxelles dans ce journal.
Et c'est une photo qui a fait le tour du monde.
Celle qu'on a appelée l'Afghane aux yeux verts, une photo prise dans un camp de réfugiés à la frontière pakistanaise, publiée en une du National Geographic en 1984. Cette femme, icône des exilés, a été arrêtée hier au Pakistan en situation irrégulière. Les précisions à suivre de notre correspondant sur place, Michel Picard.
Et puis à 7h36, le choix de la rédaction nous emmènera au plus grand salon français de jeux vidéo.
Un secteur qui pèse près de 3 milliards d'euros. Clément Lacaton nous guidera pour cette Paris Games Week entre enjeux économiques et culturels. C'est une icône, un regard qui a bouleversé le monde, celle qu'on a surnommée l'Afghane aux yeux verts, en référence à une photo du National Geographic devenue mythique en 1984. Cette femme a été arrêtée hier au Pakistan avec de faux papiers d'identité. À Islamabad, le récit de Michel Picard.
Le portrait de la jeune fille aux grands yeux verts, photographiée dans un camp de réfugiés afghans du Pakistan, avait fait la couverture du magazine américain en 1984. Très vite surnommée la Mona Lisa du tiers-monde, Sharbat Gula et son regard hypnotique étaient alors devenus une icône au sein d'un peuple afghan dont le pays vivait sous occupation soviétique. Après de longues recherches, l'auteur de la photographie, Steve McCurry, avait retrouvé en 2002 l'adolescente célèbre, devenue mère de trois filles, installée dans un village d'Afghanistan. On ignore à quel moment elle est revenue au Pakistan, mais sa demande de carte d'identité pakistanaise, sous un nom d'emprunt, date d'avril 2014. L'obtention de faux papiers d'identité pourrait en théorie coûter très cher à Sharbat Gula, une dizaine d'années de prison et jusqu'à 5000 dollars d'amende. En réalité, les Afghans arrêtés pour ce motif sont simplement expulsés du Pakistan. Son arrestation est le fruit d'une longue enquête, 2 ans d'investigation qui ont permis de mettre à jour une gigantesque fraude au sein de l'autorité de l'état civil. Plus de 60 000 fausses cartes d'identité ont ainsi été délivrées par un service pourtant informatisé. Depuis le début de l'année, sous la pression des autorités pakistanaises, les réfugiés afghans ont entamé un vaste mouvement de retour au pays, un retour forcé, comme probablement celui de Sharbat Gula, icône déchue, dans un pays en ruine, miné par des décennies ininterrompues de guerre.
Michel Picard, le correspondant de France Culture au Pakistan. Alors que le géant coréen Samsung est confronté à une crise sans précédent avec les problèmes techniques majeurs de son problème de téléphone portable, donc sur les batteries défectueuses du Galaxy 7, le fils du PDG de Samsung devrait être nommé à la tête du groupe aujourd'hui. Reportage à suivre à Séoul dans le journal de 8h d'Amélie Perrier. On part tout de suite à Bruxelles, au chevet de l'Union européenne, dont le réveil doit être bien difficile pour les représentants favorables au CETA, le traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, dont toute signature reste pour l'instant bloquée à cause de l'opposition du Parlement wallon. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors avec l'annulation de cette signature prévue aujourd'hui avec le Premier ministre canadien, c'est le cauchemar des négociateurs qui est devenu réalité.
Oui, franchement, on peut se demander qui pouvait encore croire que ce sommet pouvait se tenir aujourd'hui, car les obstacles politiques et pratiques demeuraient nombreux et importants. Il s'agissait d'abord, évidemment, de faire venir d'Ottawa le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ce qui supposait un préavis d'au moins 8 heures, temps nécessaire au vol transatlantique, ce qui restreignait d'autant le créneau disponible à Bruxelles aujourd'hui. Mais c'est l'aspect tactique qui était déterminant. Vis-à-vis de leur électorat, les élus wallons devaient marquer les esprits et ne pas donner l'impression d'avoir cédé dans la dernière ligne droite. Être responsable du report du sommet euro-canadien, voilà qui de longue date constituait un objectif à ne pas manquer et qui est désormais chose faite. Car le contenu technique de la négociation intra-belge est au fond secondaire par rapport aux considérations politiques entre flamands et francophones, entre partis francophones et à l'intérieur même du Parti socialiste, le soudain vedettariat de Paul Magnette le plaçant en bonne position pour la présidence de sa famille politique, ce qui bouscule les ambitions de quelques-uns. Sur les pourparlers qui doivent reprendre ce matin, on notera que les Wallons réclament davantage de garanties sur l'instance de règlement des conflits publics-privés, sur la protection des agriculteurs, sur la protection de l'économie sociale et sur une clause de sauvegarde générale qui permettrait, le cas échéant, à la Wallonie de se retirer toute seule de l'accord, autant de têtes de chapitre qui, en réalité, trouvent dans le texte même du traité une réponse qui devrait normalement rencontrer les préoccupations des Wallons.
Merci Quentin Dickinson. En France, une enveloppe de 250 millions d'euros pour calmer la colère des policiers. C'est l'offre du gouvernement hier à l'issue d'une réunion à l'Élysée. François Hollande, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas recevaient les représentants syndicaux. Cette enveloppe, dont une partie est déjà inscrite dans le budget 2017, vise à moderniser les équipements, des armes, des gilets pare-balles, plus de véhicules, rénover aussi les commissariats et les gendarmeries. Elle s'accompagne d'autres engagements comme une évolution de la légitime défense et la fin des gardes statiques systématiques.
7h35 sur France Culture, c'est la suite du journal Sophie Delpont avec le choix de la rédaction.
Consacré ce matin à l'un des fleurons français, l'industrie du jeu vidéo, à l'occasion de la Paris Games Week, le plus grand salon français du genre. Il est organisé par le syndicat du secteur des éditeurs de jeux vidéo, 6e édition cette année. L'an dernier, il a attiré plus de 200 000 visiteurs. Le secteur représente plus de 3 milliards d'euros. Le jeu vidéo est devenu un objet culturel. Pour preuve, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, y participe pour la première fois cette année, Clément Lacaton.
Les jeux vidéo font partie du patrimoine national, un patrimoine à préserver, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Pascal Issartel dirige le département de l'audiovisuel dans le célèbre bâtiment en forme de livre ouvert.
Il faut aussi légitimer en interne à la BNF les jeux vidéo. Sur les 2500 personnels de la bibliothèque, tous ne sont pas gamers, donc on doit aussi affirmer ce positionnement.
Et cela passe donc par un stand de la BNF installé à côté d'autres exposants comme PlayStation, Xbox ou Ubisoft.
On souhaitait être présent à la Paris Games Week pour affirmer notre rôle qui est devenu majeur dans la préservation de ce patrimoine vidéoludique et notamment sensibiliser les créateurs de jeux vidéo à cette obligation qui s'appelle le dépôt légal, qui est l'équivalent du dépôt légal pour les ouvrages notamment. Depuis 1992, les créateurs de jeux vidéo, les distributeurs, les éditeurs ont l'obligation de déposer les exemplaires distribués donc en France à la BNF. C'est une forme de légitimation culturelle pour cette industrie qui se revendique maintenant vraiment sur ce secteur culturel.
Au total, 15 000 jeux vidéo sont précieusement conservés dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale de France. 1000 de plus y entrent chaque année, sans compter 35 000 supports de la disquette aux jeux dématérialisés.
La difficulté, c'est de suivre ces évolutions technologiques pour nous, puisque notre projet, c'est de rendre accessibles ces documents de manière pérenne, notamment aux chercheurs dans 30 ans, 50 ans. Les jeux vidéo sont conservés dans des magasins avec les mêmes conditions d'hygrométrie, de température, dans des boîtes de conservation spécifiquement créées pour certains jeux vidéo, pour montrer qu'effectivement nous portons la même attention à cette conservation, que ce soit pour des jeux vidéo ou pour des documents plus prestigieux, entre guillemets, en tout cas légitimés comme tels et plus anciens.
Mario Kart est donc référencé de la même manière que Gutenberg, Baudelaire ou Darwin, avec comme un manuscrit du Moyen-Âge une relique vidéoludique, une console qui nous ferait penser aujourd'hui à un appareil raclette.
La plus ancienne, c'est la console Magnavox d'Odyssée, qui date pour sa commercialisation en France de 1974. Nous sommes aussi là pour raconter cette histoire qui est récente, mais qui de plus en plus s'inscrit dans le patrimoine.
La présence de la BNF cette année, c'est un signe fort, se félicite Jean-Claude Guinozzi, l'organisateur du salon et président du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
Ça institutionnalise le jeu vidéo comme une partie prenante de la culture. Le jeu vidéo a une place de choix au même titre qu'une œuvre de Proust ou de Victor Hugo.
Mais avec une différence liée au grand nombre de supports de l'ordinateur au casque de réalité virtuelle.
Dans le monde de la culture et des médias, le fait que le jeu vidéo soit né d'un hybride qui est la technologie et l'écriture interactive, la création est complètement unique et c'est une très forte identité puisque on le voit à travers les évolutions de ce secteur qui n'a pas subi les contre-coups de la dématérialisation, de la digitalisation comme ça a pu être le cas de manière très abrupte pour évidemment le monde de la musique, le monde de la télé qui peut subir justement des problèmes économiques. Le jeu vidéo a tendance à inventer des modèles avant que les modèles précédents ne meurent. C'est une œuvre à part entière, donc il y a un effet de mémoire, mais la BNF institutionnalise l'histoire et l'évolution du jeu vidéo à travers les âges.
Et pour lui, les joueurs d'aujourd'hui sont les historiens de demain, car les jeux vidéo reflètent la société, un objet d'étude. Sur les 1900 jeux publiés l'an dernier, 1200 sont considérés comme violents, et les jeux de football restent largement en tête des ventes. FIFA 2016 est même le bien culturel le plus vendu en France, derrière le dernier album d'Astérix.
Le choix de la rédaction à retrouver sur franceculture.fr. Un temps voilé ce matin sur la moitié nord, soleil dominant sur la moitié sud. L'après-midi, un ciel bleu presque partout. Température un peu plus fraîche ce matin, 8 degrés à Nancy, 10 à Caen, 18 à Perpignan, jusqu'à 21 degrés pour Ajaccio.